Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Pourquoi les moines dans Calcat travaillent et, par rapport à d'autres monastères, travaillent beaucoup ?
Frère Jean-Jacques.
Un peu comme les trappistes ou les trappistines, c'est eux-mêmes qui me l'ont dit. C'est parce que nous avons décidé en communauté depuis des dizaines d'années de vivre du travail de nos mains, c'est-à-dire de ne pas vivre de dons. Alors, nous avons des dons, bien sûr, mais les dons, nous les donnons à l'entraide de la région, à l'entraide nationale, des grandes et petites associations, à l'entraide internationale et aussi, et beaucoup dans le monde monastique, notamment en Afrique. Mais pour pouvoir vivre de nos mains et faire des travaux, et vous devinez ainsi que vos auditeurs qu'avec une grande maison, il y a de grands travaux tout le temps, il faut des euros. Et pour cela, il faut travailler. Il faut un certain nombre de volumes d'horaires pour nous à dégager dans nos 3-8, hein, la prière, le travail et le repos et les activités communautaires. Et puis, il nous faut des activités qui dégagent tout de même une certaine marge.
C'est une nécessité.
C'est une nécessité de vie à partir du moment où nous avons décidé de vivre du travail de nos mains, comme de vrais moines. Et nous avons de la chance d'avoir des clients, d'être connus. On a la chance que n'ont pas des tas de gens.
Le cœur de notre vie monastique, organisé, ordonné dans ses moindres détails depuis près de 15 siècles par la règle de Saint Benoît, c'est l'Évangile, annoncé par Jésus il y a plus de 2000 ans, nous disait la semaine dernière frère Colomba, prieur du monastère Saint Benoît d'Incalcat. Une règle du 6e siècle pour des hommes du 21e siècle, un défi ? Probablement. Pourtant, les moines que nous rencontrons en ce début de mois de mai 2021 à Incalcat sont pleinement des hommes de leur temps. Cependant, il n'oublie pas, comme frère Colomba nous le rappelait, que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes.
Oui, le temps de Dieu, le kairos, comme on dit, hein, qui s'oppose au chronos. Et c'est un autre temps, plus lent, plus mesuré, avec des... Donc c'est dans ce temps-là qu'on vit, hein, la majeure partie de notre journée... on passe le plus de temps à prier, en fait. On passe plus de temps à prier qu'à travailler, presque. Enfin, c'est, voilà, même si le travail est nécessaire pour vivre, mais on n'en fait pas une priorité. Et donc, pour nous.
Le travail et prière aussi.
Voilà, le travail et prière. La prière est aussi un travail, parce que ça demande beaucoup d'efforts, voilà, pour chanter, se lever le matin pour chanter, être voilà, mais c'est un travail du corps aussi. Et ce temps, ce rythme fait beaucoup. Enfin, je me souviens que quand je suis arrivé au monastère, j'ai eu beaucoup de mal au début à me faire au rythme, hein, parce que c'est très différent. On n'a pas de vacances, mais on a souvent du temps libre, donc en fait ça, c'est un rythme qui est beaucoup moins haché, beaucoup moins découpé, enfin qui est découpé, mais qui est pas, disons qu'on...
Une régularité.
Il y a une régularité, voilà, les gens travaillent la semaine et puis travaillent comme des fous pendant la semaine et puis le week-end ils se relâchent complètement. Bon, ben nous, on est toujours un peu tendu, mais c'est pas une tension qui est trop forte, donc ça permet de tenir dans la régularité. Et même si des fois on a besoin de décompresser un peu, mais voilà, c'est vraiment un tout autre rythme.
Prier et lire la parole du Seigneur, deux des trois piliers de la vie monastique. Le troisième, le travail, qui vient l'équilibrer, est tout comme les deux premiers l'un des lieux privilégiés de la rencontre avec le Créateur. Au chapitre 48 de la règle, saint Benoît explique que l'oisiveté est l'ennemi de l'âme, et il insiste pour que chaque moine soit assidu au travail qui lui aura été affecté. Mais le travail, comme le disait le frère Jean-Jacques en début de reportage, et que nous allons retrouver en compagnie de frère Maximilien à l'atelier des éditions, est également une nécessité économique.
Depuis plus de 80 ans, nous avons, alors non pas un atelier de production, puisque les cartes d'art sont faites par un imprimeur d'art, mais nous sommes éditeurs et pas imprimeurs, et nous imprimons depuis plus de 80 ans de très jolies cartes d'art. Et notre fondateur avait désiré, lutter un peu contre l'art sulpicien, si l'on peut considérer que c'est un art, pour développer Fra Angelico, Duccio, le Quattrocento, et puis après est venu Don Robert, Henri Guérin, et puis bien sûr, Sœur Mercedes de
Tournier, hein.
À Sainte Scolastique. Oui. Donc nous avons un grand secteur d'art ancien et un secteur d'art contemporain lié à l'abbaye, avec Don Robert et Sœur Mercedes, qui est en pleine expansion.
Frère Maximilien, quel est votre rôle dans cet atelier ?
Donc, je suis responsable des éditions depuis à peu près 6 mois. Je succède Frère Jean-Jacques. Donc ça veut dire s'occuper des commandes, aussi des clients, des revendeurs, et aussi de préparer des projets pour les nouvelles cartes, des impressions pour chaque année, pour cette année. Pour Noël, il faut prévoir Noël déjà en mars.
Par rapport à la liturgie, nous avons toujours un mystère d'avance, puisque en ce moment, nous sommes déjà dans Noël.
Effectivement. Donc, des cartes, vous nous expliquez, alors il y a des cartes, il y a différents formats, il y a des signés, des cartes.
Alors, nous avons des images qui sont de petite taille, qui sont achetées, utilisées surtout pour la première communion, communion de foi.
Profession de foi.
Et la confirmation, mais aussi cartes de vœux. Carte classique, disons, postale aussi.
Et là, c'est des vitraux d'Henri Guérin,
ça? Là, c'est par exemple lui qui l'a fait chez nous. Et on a des signets de Dom Robert, donc avec quelques détails de ses tapisseries, des coques, des oiseaux, voilà, même Noël aussi. Et il y a aussi des grandes cartes de Dom Robert qui sont, voilà, par exemple l'agneau. Ouais. L'été, c'est la première tapisserie d'ailleurs qu'il a fait. On a aussi des toiles imprimées, de certaines tapisseries et des posters.
D'accord.
Des posters, vous voyez par exemple ici qui sont affichés ou à l'entrée, l'arbre de vie. Toutes les tapisseries que nous avons eues sont maintenant dans le musée à Sorez. Il y a un cycle de 3 ans. Trois cycles de 3 ans, si je ne me trompe pas, oui. Où on peut regarder, visiter, voilà, ce musée.
Ce matin, c'était dans le parc. J'avais l'impression, en regardant la prairie, de voir ces tableaux, ces tapisseries de Don Robert.
Oui, les moines ici ont découvert, grâce à Don Robert, les ombelles. Vous savez, ça ressemble à des fleurs de carottes, là. C'est tout ce qu'il y a de plus commun. Mais grâce à la tapisserie L'Aude, qui est exposée en permanence à Sorez, et c'est la seule tapisserie que nous ayons conservée, qui est au chapitre, on voit les ombelles dans nos prairies, et on voit les différentes couleurs de l'ombelle suivant le jour, et on s'extasie, les ombelles, le nom est beau, mais fleurs de carotte, c'est moins beau, mais on s'extasie maintenant pour ces choses toutes simples, grâce à Don Robert. Vous voyez ça,
oui. Oui.
Alors, c'est une tapisserie immense qui fait 3 mètres sur 2. Hein. Alors, évidemment, sur une petite carte, c'est moins beau. Hein.
Il faut la regarder de loin. Ce qui fait que chaque fleur est unique.
C'est ça. Et chaque fleur est composée d'un milliard de fleurs, puisque chaque bouquet est composé de plusieurs fleurs qui sont composées de fleurs juxtaposées.
Mais c'est vertigineux ce que vous dites.
Mes frères ne savent pas combien ma parole est vertigineuse. Les auditeurs, eux, le sauront.
Pour en revenir à des choses plus prosaïques, vous en éditez, ce que je vois, là, vous avez tous les rayonnages sont vraiment remplis.
On a un stockage ailleurs, parce qu'ici, tout n'entre pas. Il y a plus de 300 références, quand même, en différents formats.
Et que vous diffusez après, vous, au magasin.
Sur notre site internet aussi.
Dans les magasins d'art monastique aussi, par
aussi,
exemple, à
oui,
Toulouse
oui,
ou ailleurs
oui,
ou...
Oui. À Toulouse, à Paris, à Lyon, dans toute la France et même en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. On a des clients en Suisse aussi, en Italie, voilà, aux États-Unis, au Canada, voilà.
Et le choix des reproductions, c'est, il vous incombe c'est, ou alors vous avez déjà tout un catalogue et puis vous continuez à reproduire ou...
Il y a des choses que l'on suit. Ben, il y en a que l'on abandonnera, qu'on ne réimprimera pas. Hein.
Ah oui.
Mais on a des stocks. Et puis, tous les ans, on fait une nouveauté. Pour
il y a une entrée, il y a une, comme le dictionnaire. Quoi.
Voilà.
Il y a
oui,
des
oui,
entrées.
Oui,
et...
oui. Il y a eu beaucoup de nouveautés pour de Robert, parce qu'il y avait les trois rotations du musée. Mais on continue de faire une nouveauté par an, au moins, pour Noël. Parce que des clients achètent, voilà, un certain nombre d'évêques achètent la nouveauté pour envoyer à 500, 600 exemplaires.
En tout cas, aujourd'hui, je crois que nous sommes seuls éditeurs en France de l'art religieux vraiment de qualité.
Alors, il y a sûrement ce qu'on appellerait en économie une niche. Alors, il y a quelques petits éditeurs, mais ce n'est pas forcément très beau et très réussi, enfin, au moins vu de notre fenêtre. Alors, on trouve des choses un peu, que nous trouvons un peu niaises, faites par droite et à gauche. Mais je crois qu'il y a de la place pour la beauté et l'évangélisation par l'art. Et pas simplement par les petites fleurs, les petits lapins et les petites phrases gentilles qu'on met un joyeux Noël sur une carte scintillante. Je crois que ceux qui ont fondé les éditions voulaient vraiment promouvoir l'évangélisation par l'art.
Tout comme le travail, frère Jean-Jacques vient de nous le dire, l'art, la création artistique sont l'une des voies privilégiées pour rejoindre le Seigneur, mais bien sûr aussi l'homme dans sa quête de Dieu, du moins dans sa recherche du mystère. Et c'est tout doucement que nous pénétrons dans l'atelier de Sitar où nous accueille frère Daniel. L'atelier, nous sommes dans l'atelier de Sitar.
L'atelier de Sitar, oui, tout à fait.
Vous êtes frère...
Je suis frère Daniel.
Frère...
Épiphane.
Et puis
frère Quisito.
Donc, il y a une tradition d'atelier de Sitar, de facture de Sitar.
Oui, c'est une tradition déjà assez ancienne, puisque ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans, parce que je suis venu travailler là à mon arrivée il y a 33 ans, donc ça fait plutôt 40 ans, en fait, qu'on produit des Sitars. Au départ, c'était pour accompagner le chant liturgique, c'est toujours le cas beaucoup, accompagner le chant liturgique au moment du passage du latin au français. Et donc, il y a eu tout un répertoire musical nouveau qui est arrivé sur le marché, et dans les églises, et dans les communautés religieuses principalement, qui n'avaient pas toutes les facilités d'accompagner l'office avec de l'orgue ou avec un autre instrument. Donc, le frère Patrice, qui était le fondateur de cet atelier, qui est décédé maintenant, organisait des sessions de chant pour former justement au nouveau répertoire. Et puis un jour, il a vu arriver une sessionniste avec une sitar, une petite sitar folklorique allemande, à 6 accords. Et il a dit, tiens, mais ça, c'est très intéressant pour accompagner l'office, pour porter le chant des psaumes. Donc à partir de là, il a adopté cet instrument et puis il l'a développé pour qu'il puisse couvrir toute la gamme, en fait.
Parce que ce n'était pas auparavant un instrument de la liturgie.
Ce n'était pas, enfin, si, du temps du roi David, oui,
oui c'était...
Mais après, ça a évolué et c'est encore connu en Allemagne de l'Est, en Europe de l'Est, comme un instrument folklorique, en fait. Ce qui fait qu'en Allemagne, la sitar dans le chant liturgique s'est beaucoup moins développée. Alors qu'en France, beaucoup, en Italie, Espagne, et puis tous les pays qui ont des communautés religieuses, qui se le disent les unes aux autres, et qui adoptent comme ça un instrument.
Donc là, vous produisez des instruments, ce sont des commandes, il y a des commandes ?
Alors, il y a des commandes, oui, qui sont... Alors je suis en train de reprendre. J'ai dirigé l'atelier pendant 9 ans et puis je suis passé à d'autres services et puis on vient de me rappeler il y a quelques semaines. Donc je redécouvre je redécouvre l'atelier aussi, notamment les commandes, je n'ai pas fait le tour. Je vois le tableau de commandes, je vois Barcelone, je vois... bon, c'est beaucoup en France. On en a vendu au Japon. On a exporté dans 60 pays, ah oui, en fait. Hein, parce que, justement, le bouche-à-oreille des communautés religieuses. Mmh. Voilà. Maintenant, il y a un fléchissement très net des commandes par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans même. On arrivait à produire jusqu'à 250 instruments par an. Voilà. Maintenant, on est autour d'une cinquantaine. Voilà. Mmh. Parce qu'il y a aussi un marché d'occasion, du coup. Et puis, Internet permet d'aller très vite vers d'autres sources. Mais en fait, je crois qu'on reste les seuls à produire.
C'est un gros centre ici, en Calcutta.
Oui, moi je dis, c'est la Mecque de la sitar. Parce qu'il y a quelques luthiers qui se sont essayés, en fait, à la production. Mais quand on est seul, c'est très difficile, en fait. Et si on était isolé, enfin, si là, on est plusieurs. Et puis, il y a une trésorerie qui ne dépend pas que de la sitar, mm-hmm, en fait. Elle est répartie sur plusieurs productions, ce qui fait que je pense qu'un luthier ne s'en sortirait pas. Ou alors, il faudrait qu'il produise beaucoup plus cher ses instruments. Mm-hmm. Et du coup, il y aurait moins de clientèle, enfin, etc. Parce que ce sont des clientèles religieuses, bon...
On peut s'approcher ?
Oui, oui. Ça, c'est une sitar en cours de montage. Donc, actuellement, on reçoit les caisses. J'ai fabriqué des caisses qui est un trapèze. Ça, c'est le trapèze le plus grand, la sitar, le plus grand modèle, qui fait 75 cm de longueur. Il fait une cinquantaine de centimètres en hauteur, sur laquelle sont fixées 121 cordes. Donc là, il y a une partie accord à gauche et puis une partie chromatique à droite. C'est-à-dire qu'on joue la mélodie avec la main droite et puis on accompagne cette mélodie avec des accords tout préparés qui sont sur la partie gauche. Voilà.
C'est un bois particulier ?
C'est un bois... Alors, il y a plusieurs bois. Le bois... particulier, c'est le hêtre, c'est l'armature étant hêtre, parce qu'elle peut recevoir le trou des chevilles, et c'est un bois qui ne s'écarte pas, donc il serre la cheville très fort. Voilà, la table d'harmonie et le fond, c'est un multipli de peupliers, je crois, ça a longtemps été de bouleaux. Mais donc ce sont cinq plis, on dit. Donc cinq couches de bois croisées, collées, très fortes, et qui ont une très forte résistance parce qu'il y a 1,5 tonne de tension, de traction des cordes sur une face de l'instrument. Donc ce n'est pas équilibré par d'autres tractions de l'autre côté. Donc il faut que ça tienne très fort. Et ce bois-là, enfin, ce contreplaqué, tient. Il est facile de se faire très vite plaisir en jouant de la sitar. C'est plus difficile de faire plaisir à un public qui, lui, est plus exigeant. Moi, je ne joue pas de la sitar, malheureusement. Personne ne joue ici, on est des luthiers. Mais j'avais un frère qui jouait, mais il ne sera pas là. On peut faire sonner un petit peu. Je ne sais pas ce qui est accordé ici.
Là, ce sont des instruments qui sont terminés.
C'est pas accordé. Ce sont des instruments qui sont finis, qui doivent être encore accordés avant expédition. Voilà, donc ça, c'est la partie chromatique. Et puis ça, c'est la partie accord. Je ne sais pas du tout si c'est accordé. Je viens de tirer l'instrument.
Ça a été accordé, mais...
Oui, c'est accordé il y a très longtemps.
Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
Je vais refaire une corde.
Là ?
Je vais la refaire
debout. Ah oui.
Donc... devant vous.
Thank you. Et voilà. Voilà, oui.
Au cœur du monastère d'Incalcate, ou plutôt à l'entrée, tout près de la porterie, la librairie. Halte incontournable pour tous ceux qui, pour des raisons connues d'eux seuls, franchissent un jour le seuil de l'abbaye. Sur près de 200 mètres carrés, dans ce bâtiment lumineux à l'allure de nef, les frères Philippe-Joseph et Sébastien-Jean nous y accueillent. Avec eux, plongés au cœur des rayonnages, où près de 6000 titres dans des domaines très divers, théologie, pastorale, catéchèse, histoire, spiritualité, philosophie, littérature, psychologie, nous attendent.
Oui, c'est une grande librairie en pleine campagne et qui a été créée donc par le père Pierre de la Jonquière, qui avait créé une petite librairie, mais juste à l'endroit de la porterie. Et en fait, après, c'est en 1987, c'est avec le frère Philippe de Lignerolles que la librairie s'est développée. Et ce bâtiment, donc plus de 200 mètres carrés quand même, a été construit en 1987.
On va d'abord parler du bâtiment, parce que le bâtiment, enfin la pièce, mérite d'abord une description. On arrive, on franchit la porte, on se trouve dans un lieu extrêmement lumineux. Lumineux est juste en face de nous, un petit peu en hauteur, un vitrail qui donne la lumière aussi.
Ce vitrail a été fait par le père Denis Hubert, que j'ai bien connu, et qui est mort en 1999. Et c'est vrai que ce lieu a été conçu pour être vraiment un lieu lumineux, une librairie. C'est-à-dire que là, on avait toute liberté. Là, on a vraiment voulu un lieu lumineux dédié aux livres. Alors, c'est pour ça que vous avez ces deux puits de jour là de chaque côté et qui n'atteignent pas, en fait, vous voyez, la lumière atteint à peine les livres, pas qu'ils soient abîmés. Mais c'est ce qu'on a voulu, c'est vraiment quand les gens arrivent, il y a une espèce de...
On a besoin d'être dans une nef.
Et là, en fait, vous avez une... Enfin, c'est un peu la pente des tentations.
Ça descend tout
simplement. Ça descend. C'est un peu la pente des tentations. Parce que souvent, on a des gens qui viennent ici, qui découvrent qu'il y a une librairie. Et ils viennent sans idée préconçue. Ils repartent avec les mains pleines. Bon, avec alors, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est une librairie religieuse
quand même. Oui.
Mais très ouverte. Niveau de la frange politique, on aura un peu tout.
Mmh. Il faut de l'initiation à l'ouvrage le plus pointu.
À l'ouvrage le plus pointu, ça. Et aussi dans les sensibilités, ça ira. La sensibilité plus traditionnelle, la sensibilité moins traditionnelle. On fait aussi très attention aux livres pour enfants et adolescents. Et dans les livres pour adolescents, par exemple, faire connaître la Bible... En ce moment, il y a un livre qui marche très bien depuis des années, c'est la Bible en manga. Et en fait, elle est très bien faite. Alors, on insiste aussi beaucoup sur l'histoire. Évidemment, bon, librairie religieuse, il y aura un rayon histoire assez développé, et par période. Alors, par exemple,
on a besoin de s'enraciner, il faut comprendre que s'enraciner.
Et de fait, bon, là, en ce moment, il y a pas mal de livres sur De Gaulle, sur Napoléon, Matteo Ricci, l'histoire du christianisme. Ça, je l'ai fait rentrer il y a peu de temps.
L'Empire assyrien.
Alors, certains, avec frère Sébastien Jean et d'autres frères, c'est nous qui choisissons aussi les livres qu'on lit au réfectoire.
Et à midi, c'était...
C'était De Gaulle.
De Gaulle, c'est celui-là.
C'est celui-là.
C'est lequel ? De Julian Jackson, une certaine
en
idée
fait,
de la France.
Anglais, Edmond Michel, Barack Obama. Ah oui. On est obligé quand même de faire des choix, de faire attention. Bon, il y a certains livres qu'on ne va pas prendre. Et notamment, il y a un domaine sur lequel on fait un peu attention, mais parce qu'on a des demandes, mais on ne veut pas tomber là-dedans, c'est l'ésotérisme. Ça, c'est l'un des rayons les plus demandés, c'est les Bibles. Alors là, toute génération confondue, c'est vraiment Bible. Ça, c'est... La part littérature.
Oui, mais une littérature qui est pleine de sens aussi. Bonjour François Cheng.
Oui, c'est François Cheng. L'Ormesson, c'est... Mais par exemple, on prendra aussi, alors on n'en vendra pas beaucoup, mais on en prendra un petit peu pour les avoir, les... Amélie Nothomb. Alors on a aussi Babar, parce que bon, avec le frère Thierry Jean de Bruneuf, et les gens achètent beaucoup Babar. Alors, ce qui est amusant, c'est pas les jeunes qui achètent Babar.
C'est les parents ou les grands-parents.
Oui, c'est ça, mais pour eux. Alors, ça, c'est la table un peu où ce qu'on peut mettre un peu en
de l'accroche, de l'accroche. Hein, oui.
Et en tête de gondole, il y a les livres du frère David. Ça, c'est le dernier qu'il a sorti. Mm-hmm. Alors, c'est la règle de Saint-Benoît expliquée à son neveu et à sa nièce qui n'y connaissent rien. Or, Marion Muller-Collard, j'aime beaucoup. Quelqu'un nous avait dit ce qu'il y a de bien chez vous. Bon, c'était un étranger qui nous disait, chez nous, dans une librairie, les gens tout de suite vont venir vers nous et nous coller. Mmh. Et je crois que nous, notre façon de faire, c'est laisser les gens... Ouais.
Mais il faut butiner. Moi, j'ai dit, dans une librairie, ouais. On butine, on ouvre...
Souvent, il y a des gens qui passent des...
Ah, on peut y passer une après-midi.
Des heures, même si... Il y a un livre un peu abîmé, c'est pas grave, ça veut dire que c'est vivant, ça veut dire que ça vit. Ouais, les BD, on a beaucoup de BD, alors avec Loupio notamment, vous connaissez Loupio.
Oui,
c'est un beau lieu.
Ah, c'est une neuf, et puis on est embarqué. Moi j'ai vogué avec vous là. Mmh. On est parti en haute mer. Voilà, là on revient au port.
Et pour les moines rencontrés, un rapport au livre étroitement lié à leur désir de faire connaître, de partager, de transmettre. Parce qu'ils sont bien persuadés que, tout comme le travail, cette réalité profondément humaine que sont la culture et la beauté nous mettent en lien direct avec Dieu.